Bonjour à tous, à chacun et à chacune. Voilà, il y a quelques personnes qui répondent, c'est bien. Ah, Alléluia. Vraiment que la grâce du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Vraiment que vous preniez tout ce que le Seigneur vous donne ce matin et chaque jour. Sa grâce est abondante. Correspondant à tous les besoins que chacune de nos vies peuvent avoir. Et le Seigneur est là pour nous restaurer pleinement. Et le sujet que j'ai pris ce matin est un sujet qui a eu le temps de mûrir, puisque c'est une prédication que j'avais commencée au mois d'août de l'année dernière. Et puis, le Seigneur m'avait orienté sur autre chose après. Et je l'avais laissé. Et puis là, le Seigneur me rappelle cette prédication. Donc c'est sur la honte. Et la honte, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre. Et donc vous avez ce petit panneau qui indique qu'il y a des mines derrière. Et c'est comme si l'ennemi avait voulu nous planter dans notre champ de vie, là où nous vivons, un tas de mines qui sont là. Possiblement on peut marcher dessus et ça nous éclate à la figure. Et souvent ça correspond à des choses qui ont été vécues dans le passé, des humiliations, des blessures. Et malgré toute la grâce de Dieu qui est abondante, malgré des prières, etc., etc., et ben nous restions prostré quelquefois dans certaines situations. Et en tout cas, j'ai eu, pour moi-même et pour l'avoir vécu avec des personnes que j'ai rencontrées, et vu que c'était un voile manifeste dans la vie des gens, parce que je savais que le Seigneur avait déposé des choses, des dons précieux dans le cœur des gens, de ces personnes-là, et ces personnes disaient toujours « Mais non, j'en suis incapable ». Et c'est pour ça que je vous disais, peut-être, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Il est tout puissant pour nous restaurer. Et toutes ces choses-là, bien sûr, ça produit du rejet et assez facilement de l'exclusion aussi. Et donc, on s'exclut des relations sociales, de relations dans la famille, dans l'église, parce qu'on a peur de quelque chose. Et donc, je vais vous parler de cela. J'espère que... pour beaucoup, ce sera aussi un début de libération ou une libération complète. Donc, d'où vient la honte? Et la honte, donc, on peut dire que c'est une confusion qui nous arrive. On est soit tout rouge, soit on perd nos moyens. C'est aussi l'humiliation, un abaissement, perdre la face, un tas de choses en tout cas qui ne sont vraiment pas des choses faciles à vivre. Et plusieurs personnages dans la Bible ont vécu ces situations-là. Vous en connaissez? Il y en a plein. Bon, déjà, je pense qu'Adam et Ève ont vécu cette chose. Mais on peut penser aussi à Job. Comment il est descendu, quoi? Comment il a été humilié? On peut penser à David, bien sûr. Joseph, aussi une situation qu'il a vécue. On peut se dire, comment traverser ce genre de choses, quoi? Mais Dieu était là. Et dans le Nouveau Testament, il y a Pierre, il y a Paul aussi. Imaginez Paul, 3 jours, aveugle, ayant perdu tous ses repères. Le fils prodigue, la femme adultère, la samaritaine, la femme atteinte de la perte de sang, etc., les lépreux. Puis il y en a un dernier, je vais dire c'est Judas, qui finalement, cette honte, cette humiliation, je ne sais pas tout ce qu'il a pu ressentir, l'a conduit à la mort. Et le Seigneur n'a pas prévu ça du tout pour nous. Et nous verrons tout à l'heure que la honte, c'est une émotion, En face à chacune de nos émotions, nous avons plusieurs façons de réagir. Mais il y a la bonne façon de réagir, qui est la façon de Dieu. Et autrement, nous pouvons faire bien pire que la situation dans laquelle nous étions. Et le contraire de la honte, c'est la dignité et l'honneur. Le Seigneur nous rend dignes, nous met à l'honneur parce qu'il nous fait confiance ô combien dans tout ce qu'il nous donne. Le premier passage que j'ai pris, que vous connaissez bien sûr puisque c'est dans Genèse, et donc ça, on passe d'un moment où vraiment Adam et Ève avaient tout et étaient dans l'innocence pleine et la relation avec Dieu était, je ne sais pas comment on pouvait être plus rempli que cela, mais malgré cela, moi, il s'est passé bien sûr ce que vous connaissez. Donc Genèse 2, 25, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Et on arrive à Genèse 3, 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Je pense que là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui nous arrive, quoi ? Bien sûr, ils savaient que leur désobéissance à tous les deux avait fait que, eh bien, ils avaient quitté l'intimité avec le Seigneur. Et donc, ça causait cette séparation et il n'y avait plus cette protection de Dieu, cette couverture divine que le Seigneur nous donne quand on lui appartient. Et le Seigneur a prévu que notre conscience s'éveille au péché. Ça, c'est sa grâce. Qu'on ne soit pas aveuglé toute notre vie. Et la culpabilité et la honte, forcément, arrivent à ce moment-là, parce qu'on se sent effectivement coupable devant Dieu, et la honte est bien là. Et c'est comme une alerte que le Seigneur nous envoie pour nous dire, mais ne reste pas là, reviens à moi. Et lorsque nous avons été les uns les autres, je l'espère, convaincus de péché, nous avons vécu cette humiliation et le Seigneur nous a convaincus aussi qu'il voulait nous apporter sa justice, nous rendre justes, nous laver de ce péché. Et donc le psaume 32 nous dit, donc ça c'est l'expérience de David, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. C'est ainsi que le Seigneur fait toujours pour nous libérer du poids de ce péché. Et le péché, il est toujours honteux, parce qu'il est contre le Père, contre notre Créateur. Et c'est vrai que cette émotion de culpabilité, de honte qui peut être là, si nous voyons le voyant rouge s'allumer, c'est que quelque chose se passe. Et le Seigneur nous dit, arrête-toi, tu as besoin d'une grande réparation. Et cette réparation, nous savons que le Seigneur fait des réparations qui sont éternelles. Ce ne sont pas des réparations qui vont durer quelques kilomètres, mais des réparations éternelles. Et donc il est urgent, dans certains cas, de faire une réparation. Chacun d'entre vous, vous avez pu connaître cela, vous pouvez encore le connaître. Et donc voilà, le Seigneur nous propose ce choix. Et Deutéronome 30, verset 19 nous dit, Je m'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Mais il y a des hontes qui restent. Et malgré, comme je vous ai dit, des vies données au Seigneur, et des hontes qui sont quelquefois, on croit qu'elles sont écrites sur notre front ou dans notre dos. Et tout cela nous décourage à rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Alors ça peut être un mauvais souvenir collé sur notre front ou dans notre dos. Vous voyez cette situation ? Peut-être vous l'avez vécue. Je crois que ça ne se vit plus maintenant dans les écoles, mais... cet enfant qui est humilié, c'est vrai. Alors bon, qu'est-ce qu'il a fait, je ne sais pas. J'ai connu ce genre de choses. Et je peux vous dire que ça a laissé des traces dans ma vie, grâce à Dieu. À un moment voulu, il a permis que tout ça se soit lavé par le pardon qu'il m'a demandé de donner aux gens qui m'avaient infligé ça. Et donc la honte commence souvent, très souvent, dès l'enfance. Et ça peut être des humiliations répétées, comme avertissement ou sanction. Les parents ou les personnes en autorité, pensant que l'effet de la honte allait nous arrêter, allait nous corriger. Mais ce n'est pas toujours ça qui se passe. Et ça m'a fait penser aussi au dressage des éléphants. Et vous connaissez peut-être cette histoire. Mais quelquefois, on est surpris de voir un éléphant qui fait plusieurs tonnes dans un cirque et qui est attaché seulement par une petite corde et un piquet qui est vraiment léger. Et on se dit, mais vraiment, cette masse de muscles peut arracher ce piquet en deux fois rien. Et pour comprendre l'histoire, il faut revenir sur le dressage de l'éléphanteau, quand l'éléphant est tout petit. En fait, on fait la même chose, on lui met une grosse chaîne au pied et on attache cette chaîne à un arbre. Et l'éléphant, qui est un animal sauvage, cherche à se défendre de toutes ses forces. Et ça dure une journée, il est épuisé, il s'écroule. Il reprend ça le lendemain, le surlendemain et peut-être plusieurs semaines. Et à la fin du compte, il est brisé parce qu'il ne dit plus jamais. Plus jamais je tirerai sur cette chaîne. Et voilà, c'est fini. Et quand il pèse plusieurs tonnes, qu'il a un tout petit piquet à le retenir, il est formaté et voilà, il reste prisonnier de cette humiliation. Et dans bien des cas, on a vécu des choses comme ça et qui nous bloquent à aller plus loin. Il y a d'autres hontes qui viennent. Hein, on a la honte chez nos parents, par exemple, par leur situation sociale. Quelquefois, des parents qui n'ont pas d'emploi, mère au foyer, père inconnu, des choses comme ça. Quelquefois, c'est une honte qui est due à nos origines. On se rappelle que Nathanaël disait « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Quand vous êtes né dans la Bretagne centrale, il y a des fois, mais c'est aussi vrai pour d'autres régions de France qui sont retirées des lieux où c'est beaucoup plus brillant, on va dire. Mais est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de cet endroit ? On suit aussi à des conflits avec des comportements indignes et de se retrouver du mauvais côté dans un temps de guerre, par exemple. Tout ça, ça reste dans les mémoires. La honte produit de l'insécurité. Une insécurité dans tous les endroits, une perte de confiance. Mais je voudrais vous dire que le remède à la honte n'est jamais l'orgueil. Parce qu'on se sert de ça aussi pour dire « Ayez une réaction d'orgueil. » Si vous avez fait du sport, moi j'ai connu ces choses-là où... étant humilié à un moment, on venait titiller la réaction d'orgueil. Mais pour moi, dans l'Église, en tant qu'enfant de Dieu, la réaction, ce n'est pas l'orgueil. L'orgueil n'a rien à faire dans le royaume de Dieu. Parce qu'elle produit des fruits qui sont bien plus dangereux. C'est ni la colère non plus, ni la vengeance, ni l'amertume, ni non plus les mauvaises paroles. Et encore moins les mauvais vœux. De dire, je ne ferai plus confiance à personne. Et moi j'avais dit, n'appartiens à personne. Parce que je peux compter sur personne, alors j'appartiendrai à personne. Et tous ces secrets, quand moi je l'ai dit, personne ne savait autour de moi, mais ça m'enfermait. Et c'est des secrets tellement lourds à porter, mais que ça nous isole, on n'a plus envie d'être en relation avec les autres, et ça nous empêche de vivre. Jésus a méprisé la honte. Dans Hébreux 12, verset 2, « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. » Amen. Le Seigneur s'est rendu vainqueur de toute cette honte, de toutes ces humiliations. Mais la croix est honteuse pour les hommes, mais glorieuse pour Dieu. Le Père et Jésus, en parfait accord, apportant leur pardon aux hommes. Ce plan merveilleux du pardon, passé par une crucifixion ignoble. Honte suprême pour les hommes de cette époque. Mais Jésus a refusé cette honte par amour pour chacun d'entre nous. Et quand je méditais sur là-dessus, je pensais à tout ce que Jésus a vécu, cette humiliation, lui qui était, on l'a dit tout à l'heure, le Fils de Dieu, qui est toujours le Fils de Dieu. Celui qui a reçu les accusations des gens qui voulaient sa mort, qui a pris la place d'un meurtrier. C'est-à-dire qu'il pouvait dire, mais je suis descendu plus bas qu'un meurtrier. Quand Barabbas a été libéré, alors je vaux moins qu'un meurtrier. La couronne d'épines. Après les cris de « Béni soit le roi » quand il rentrait dans Jérusalem. Imaginez tout ça. Tous les coups, toutes les insultes, les crachats. Et ce qui m'a fait sans doute saisir le plus, c'est le reniement de son ami Pierre. Imaginez ces regards qui se croisent. Jésus a méprisé la honte parce qu'il avait quelque chose en vue qui était bien supérieur. Jésus a vaincu la honte pour que nous n'ayons plus à la porter, nous ses enfants nés de nouveau. Et c'est vrai que la honte, ça pue l'enfer. Odeur de mort et non parfum de vie. Et le péché est toujours attaché à notre vie. Quand la honte est là, elle reste aussi attachée. Alors on n'est pas au bénéfice de la grâce de Dieu. C'est déjà le premièrement, savoir pourquoi la honte est là, c'est que le péché est aussi installé. Mais c'est le moment de choisir aussi, lorsque vous savez qu'il y a quelque chose qui est écrit. Là, vous ne l'avez pas imaginé, c'est bien vrai. C'est aussi le moment de venir au Seigneur en disant « Pardon Seigneur, nous verrons ça tout à l'heure. » Par contre, si c'est l'ennemi ou notre mémoire qui continue de nous rappeler la honte du péché, alors que nous savons que tout est pardonné, Alors moi je dis, va voir dans le livre de Dieu, au 25-09-1993, ça c'est pour moi. Vous, vous avez une autre date, c'est le jour où vous avez donné votre vie au Seigneur. Et vous pouvez regarder aussi dans Romains 8, donc 31-34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Et la croix, elle est honteuse pour la chair. La honte est aussi attachée à la chair. La chair, ce qui est en nous, qui est contre la volonté de Dieu. La croix signifie faire comme Jésus, faire la volonté du Père, obéissant à la volonté de Dieu. La croix honteuse pour la chair, parce qu'elle est opposée à Dieu. Et parce qu'on ne tire aucune joie d'être un pied dedans et un pied dehors du royaume de Dieu. Et Philippiens 3 nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, tendant vers ce qui est en avant. Amen. Et notre vie nouvelle, elle doit ressembler à la vie de Jésus. Et il était dans la prière, cherchant la volonté de Dieu, cherchant tout ce que le Père lui montrerait. Tout ce qu'il avait vu le Père faire, il le faisait, capitulant à sa propre volonté. La chair brisée. Alors l'amour de Dieu, la vérité, l'intégrité de Dieu se manifestait. Et Romains 8, que je reprends souvent, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et donc, c'est Jésus qui nous redonne l'honneur, la dignité. Et Jésus a passé, oui, des ovations à l'entrée dans Jérusalem, au crucifie-le, à cause de l'humilité qui fait partie de son caractère, et parce qu'il était aimé du Père, il faisait toute sa volonté. Jésus, dans son ministère sur cette terre, est venu révéler le cœur du Père. L'amour et la compassion ont été manifestés avec puissance pour délivrer ceux qui sont encore dans la honte sous l'emprise du malin. Ésaïe 66 nous dit « Voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. » La honte enferme les personnes dans des prisons efficaces, même sans barreaux. Mais la grâce, l'honneur, la dignité que Jésus nous a donnée nous redonne cette liberté. Elle est toujours et à cet unique endroit. À la nouvelle naissance, nous recevons un amour sans condition. Le sang de Christ a plus de valeur que le péché de toute l'humanité. Le prix est payé, doublement payé. Et nous avons quelques exemples que nous connaissons, mais c'est bon de se remémorer. Mais Seigneur, où tu as brisé la honte de cette personne? Où je peux le retrouver? Et donc, Luc 13, 11, 12, la femme courbée depuis 18 ans. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Elle a repris vie. Son humiliation, elle la portait, c'était manifeste. Elle s'est redressée. Matthieu 9, 20, 22. Et voici qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Là, il y avait une honte qui était cachée. C'était différent, mais elle la portait bien depuis 12 ans. Elle n'avait même aucune possibilité de venir en public à cette époque-là. Mais vraiment, elle a eu ce courage de venir à celui seul qui peut nous délivrer de la honte, nous délivrer de cette marque de mort qui peut être mise sur nous. Marc 1, verset 40, là c'est un lépreux vint à lui, donc à Jésus, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Amen. À la croix, la honte a perdu toute sa puissance. Et la honte, elle doit passer par la croix uniquement. Jésus n'en a fait aucun cas, comme de la mort ou du péché. Rien ne pouvait le retenir, lui Jésus. Il a méprisé la honte pour que nous n'ayons pas à la porter. Romains 8 encore, 37 et 30 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, en Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Comment faire dans ces situations? C'est vraiment retirer à l'ennemi tout le pouvoir qu'il peut garder sur nos vies. C'est relâcher chacun de ces sujets de honte, un à un. Demander la révélation aussi au Saint-Esprit, de nous montrer la source de cette honte, afin que le Seigneur, dans sa grâce, nous y en montre où était la source. Nous puissions apporter ces choses au Seigneur, afin qu'il ait qu'il arrache cette racine. Parce que le temps ne permet pas de tout séparer, de tout réparer, pardon. Si une offense ou un abus reste présent, nous couvrant de honte, c'est qu'il y a peut-être encore en nous quelque chose qui ne nous appartient pas, qui n'est pas de nous, comme une flèche ennemie plantée quelque part, ou le dard d'une guêpe qui est restée, et qui continue de nous faire mal. C'est cela qui est à enlever, cette flèche étrangère. Donc on va demander au Seigneur de couper tous les mauvais liens d'âme aussi, qui nous unissent encore à ces personnes, à ces lieux. Tous ces liens iniques, qui peuvent être dans la sexualité, dans la violence, dans des paroles de condamnation, des humiliations, et qui viendraient encore renforcer la honte, tous ces liens qui existent encore avec les personnes, mais aussi avec les lieux où ces choses-là se sont vécues. Alors je ne sais pas si vous avez, au travers de ce que j'ai pu vous dire déjà, des choses qui sont sur votre cœur, Et vous savez que ces choses-là, ça vous a humilié. Que ce soit récent ou que ce soit il y a peut-être 50 ans. Mais vous savez que cette chose-là vous empêche de vivre. On va faire une prière toute simple. Ou deux formes de prière, parce qu'en fait, il y a aussi une... Quelquefois, nous avons attiré nous-mêmes, nous sommes responsables de la honte qui est sur nous. Dans d'autres cas, ce n'est pas le cas. Donc, de ces deux formes de prière, je vais vous proposer de les faire simplement à votre place. Je ne vais pas vous demander de vous approcher. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui est humilié, lui demander de s'approcher en plus, quelqu'un qui est dans la honte, ça peut être encore plus lourd. Le Seigneur sait chacune des choses que nous avons pu vivre. Et donc à votre place, on va prier. Vous pouvez répéter ça dans votre cœur, tout simplement. Seigneur Jésus, je viens librement devant toi parce que je suis sous la honte de, vous mettez ce qui est sur votre cœur. Si vous êtes responsable de ce péché, vous dites, je te demande pardon parce que j'ai péché contre toi en commettant tel acte. Dites ce qui est sur votre cœur. Si vous avez été victime là de ce péché, victime d'un abus, là vous dites, je pardonne à, vous pouvez citer la personne ou les personnes, pour m'avoir abusé, blessé. Et donc vous pouvez dire aussi ce qui s'est passé, simplement. Je ne veux plus rien retenir contre cette personne. Et Seigneur, je reçois ton pardon sans condition. Et donne mon pardon sans condition à chacune de ces personnes. Seigneur Jésus, je te demande aussi de couper tous les mauvais liens d'âme avec cette ou ces personnes. Que ce qui est à moi me revienne, que ce qui est à elle lui retourne. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Pas besoin de faire des longueurs. Le Seigneur sonde nos cœurs, il sait ce qu'il y a. Ces simples prières suffisent, si vous les avez dites de tout votre cœur. Et en conclusion, ce que Hébreux 10 nous dit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Amen. Et j'avais retrouvé un commentaire de Spurgeon sur ce verset. Donc je vais vous le lire pour que ça vous encourage. Le Seigneur Jésus, par suite de son alliance de grâce, traite son peuple comme s'il n'avait jamais péché. Et il oublie toutes ses transgressions. Il considère ses péchés, quelle que soit leur gravité, comme s'ils n'avaient jamais eu lieu. Ils sont entièrement effacés de sa mémoire. Ô miracle de la grâce ! Dieu fait ici, par cette grâce, ce qui, à cause de sa sainteté et de sa justice, lui serait impossible. Sa miséricorde fait des prodiges qui dépassent toutes ses autres œuvres. Notre Dieu ignore notre péché depuis que le sacrifice de Jésus a ratifié l'alliance. Nous pouvons nous réjouir en lui sans crainte de provoquer sa colère contre nous par suite de nos iniquités. Voyez, il nous compte parmi ses enfants et nous considère comme justes. Il prend son plaisir en nous, comme si nous étions parfaitement saints. Il nous accorde même des places de confiance. Nous sommes défenseurs de son honneur, dépositaires des joyaux de sa couronne, dispensateurs de son évangile. Il nous donne une dignité, il nous confère un ministère. C'est là la preuve la plus éclatante qu'il ne se souvient point de nos péchés. Nous-mêmes, quand nous pardonnons à un ennemi, nous attendons longtemps avant de nous fier à lui. Nous craignons d'être imprudents, mais le Seigneur oublie nos péchés et nous traite comme si nous n'avons jamais erré. Ô mon âme, accepte sa promesse et réjouis-toi de sa faveur. Amen. Amen. Nous allons prier que toutes ces choses descendent dans nos cœurs. Quelles que soient les choses, le Seigneur a toujours quelque chose pour nous. Un joyau qu'il a précisément pour chacun d'entre nous, là où nous sommes. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, parce que tu es merveilleux dans tout ce que tu fais, Seigneur. Oui, Seigneur, ce n'est pas par nos yeux que nous pouvons comprendre, Seigneur, ni par notre intelligence, Seigneur, mais seulement par ton esprit, Seigneur. Seigneur, je te prie encore de révéler à mes frères et à mes sœurs toute l'œuvre de restauration, de libération que tu veux accomplir en eux, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as pour nous, Seigneur, un royaume de paix. Et cette paix, elle est chaque jour, Seigneur, au-dedans de nos cœurs, Seigneur, parce que tu as placé ton esprit en nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons te retrouver là où tu es, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur. Dans cet endroit, Seigneur, où nous pouvons te parler seul à seul, tout te confier, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que cette intimité grandisse dans les cœurs, Seigneur, afin que chacun et chacune soit libéré, restauré, Seigneur, parfaitement libéré, Seigneur, de l'humiliation, de la honte qui a pu être sur ses vies, Seigneur. Seigneur, tu es venu pour libérer les captifs, Seigneur, rendre libres les opprimés, Seigneur. Seigneur, tu as voulu un peuple qui se lève, Seigneur, non pas avec sa force, Seigneur, mais avec ton esprit, Seigneur. Seigneur, donne à chacun et à chacune, s'il te plaît, de prendre conscience de l'immense trésor que tu as mis en nous, Seigneur, et que tu as pour nous, Seigneur, des projets de paix et non de malheur. Amen.